Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardement, le podcast vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, ça fait très plaisir de vous revoir et de vous recevoir. J'ai avec moi pour vous divertir une fine équipe, à commencer par Juanito.
Bonsoir.
Je m'appelle Juan. Camille.
Hello.
La duchesse de Franche-Comté et Ichouchou.
Salut.
Le chroniqueur animalien. Hello. Ça me fait très 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 plaisir de vous revoir, et puis moi ça me fait plaisir de vous revoir aussi, parce qu'on n'a pas non plus 36 000 occasions de se revoir, parce que voilà, la vie fait que. Mais comment allez-vous?
Ah.
Et par cette chaleur de petite vertu.
Hardcore là, nous sommes dans le sud, on a toujours un peu de souffle.
Ah.
Ah, on a Karen avec nous, Karen et Tourneau, la seule unique.
Et Lionel qui était venu voir nos parties de Géoguesseur avec Camille. Mais oui, de comment t'as fait très cher, parce que c'est à vous que je parlais en fait, Camille, Cham, Juan.
Ah bah la grande fin.
Ah. Ça va mieux depuis la réouverture de la vie. On en profite.
Bon bah cool, ça fait plaisir. Bon bah pour l'instant je ne suis pas encore de retour à Paris, mais j'ai hâte de voir ça. Et puis oui, donc désolé chers auditeurs, chères auditrices, donc on est en direct sur Twitch, et puis on va aussi exporter cet épisode en podcast classique.
Si on arrive à couper ce souffle, qui c'est qu'il y a un ventilateur allumé?
Non mais je le retirerai.
Je ferme la fenêtre.
Ah bah bravo. Non mais au pire je le retirerai. Ouais bon, on va. Mais ouais, ça fait trop plaisir, et puis, vous savez déjà qu'on a exporté cet épisode si vous nous écoutez en podcast, mais voilà, désolé, on a eu un gros passage à, pas vide, mais à pas très rempli non plus, mais bon, parce que vous savez, les choses de la vie, les confinements successifs, les déménagements, des choses de ci, de là, donc voilà. Puis comme on vous dit toujours, hein, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres, et puis on essaie de faire ça également, donc pas toujours facile de se retrouver pour enregistrer et puis de préparer l'épisode, mais... Vous nous manquez quand même beaucoup. Et nous, on était très très chaud pour enregistrer quelque chose. Ah oui, essayer de reprendre tout.
Finalement, ça ne change pas, puisque d'habitude, à cette période de l'année, on était en train de dire dans le studio. Avec le Captain Web à regarder du morbier fond.
C'est vrai.
Là, on cuit chacun de son côté, mais il n'y a que Camille qui cuit.
Non. Non.
Camille, elle est tranquille là.
Ah, tranquillement.
Après, tu enregistres depuis ton frigo, ce qui facilite grandement les choses.
D'ailleurs, pourquoi tu stockes tes livres dans ton frigo? Tu nous expliques.
Mais parce que je me suis acheté un très grand frigo.
Regardez de nouvelles fraîches.
Il y avait de déco à chaque fois que je voulais choper la mayonnaise.
Yeah, mon dieu. On est toujours ultra bon sur les vannes.
Ouais.
Là, merci à tous ceux qui sont dans le chat. Bien. C'est super gentil. Ouais. On n'interagit pas trop avec le chat pendant les sujets. Ça vous embête pas, comme ça on va regarder un petit peu. Et entre les sujets, bien sûr. Attention à vous, bien entendu.
Ok, moi je ferai des blagues dans le chat pendant que les autres parleront.
Ah oui, par contre, quand je dis ne fera pas attention, c'est verbalement uniquement. Par contre, évidemment, à coup de cliquer, ça va y aller.
Exactement. Et sur ce, on va essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts. Déjà parce que être 2 heures avec une caméra, c'est beaucoup plus difficile qu'être 2 heures avec des copains en train de boire des bières.
Puis il y a l'Italie suisse aussi en parallèle. Tiens.
Mais c'est à quelle heure?
Bah là maintenant, 0-0 ouais. Et à 4 minutes.
Ah oui,
c'est pour ça que t'as pas fait de sujet aujourd'hui.
Duchem, ça va être notre reporter.
On me signale à l'oreillette que l'Italie n'a toujours pas marqué.
Ah, pour changer.
Et tu auras un but.
Ah, tu me rappelles un ancien commentateur de foot qui avait la langue bien pendue et un humour particulier. Non, je rigole. Pardon. Donc nous disions donc 2 sujets aujourd'hui, et ces sujets, lesquels sont-ils? Il me semble que on va innover, puisqu'on va commencer avec Camille.
Oui, tout à fait. Et moi, je vais vous parler du radeau de la Méduse, enfin du naufrage de la Méduse. Je ne vais pas vous parler de l'œuvre Le radeau de la Méduse, mais de l'histoire qu'il y a derrière le radeau de la Méduse. Je pense que vous voyez tous de quel tableau il s'agit.
Qui est gigantesque, 7 mètres sur 4.
Je crois qu'en réalité, oui, c'est un truc genre 8 sur 4 ou 8 sur 6. Donc, ouais, t'es clairement pas loin.
Belle bête.
Un truc comme ça.
Ouais, c'est encore une façon de rendre la culture inaccessible, tu vois. Tu vois, un tableau tellement grand qui peut rentrer sur le mur d'aucun pauvre.
Je veux dire, je suis dégoûtée, je voulais le prendre pour chez moi, ça rentre pas dans mon salon, n'importe
quoi. Voilà. Et pareil pour les toilettes. Bien,
tu vois, aujourd'hui, on a une lueur d'espoir, on nous dit vous avez des masques, vous avez des vaccins. Je vais faire un sujet sur la radeau de la Méduse. Allez vous faire foutre.
On n'avait pas fait la peste au début du Covid, je me souviens.
Un truc bon plan.
C'est possible.
Si, c'est possible, mais voilà, j'avais envie d'un sujet bonne humeur.
C'est
et donc, le naufrage de la Méduse, c'est chouette. Voilà.
Ben, c'est parfait. Ou alors, voilà, et on positivera parce que, exactement, non seulement il y aura de la flotte, et en plus, on se dira, on est quand même chanceux. Qu'on est chanceux, est-ce que notre cher Juanito nous parlerait pas de, d'autres personnes qui sont plus chanceuses qu'elles ne le pensent?
Oui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas un sujet culturel, mais un sujet de rage, qui est les backpackers. Mais je vous en parle tout à l'heure, mais ça parle de. Peur sans ce
j'ai bien bien hâte.
Oh, ça va être très rageux.
léger
mais rageux, on va pouvoir cracher sur.
Mais c'est ce qu'on aime.
Ouais, exactement.
J'avais aussi un sujet intéressant sur un biais cognitif. À quoi bon?
Après, les biais cognitifs, moi j'aime bien aussi, tu sais. Donc,
ouais, je vais peut-être te le laisser, je vais te l'envoyer.
Alright. Bon du coup je vous propose de partir.
Salut alors.
Pareil.
Mais c'est humour.
Juan a des problèmes de micro, ça coupe. Ça doit être ma carte.
Ah, c'est pas très gentil de parler du bégaiement de Juan, mais ok.
Si vous me donnez une petite seconde, je vais juste changer de micro.
Ouais,
comme chez toi. Pour l'instant, moi je regarde, il y a 7 minutes 25 Italie-Suisse, toujours 0-0, il y a une touche.
Du
numéro 2 italien. Voilà.
Toi, t'es vraiment du genre à ramener une mini télé à un mariage. Tu sais, pendant que ta fille se marie, tu vas regarder France-Italie. Genre.
Est-ce que j'ai regardé la Macédoine du Nord contre l'Irlande dans l'Autriche dans le métro? Peut-être.
Mais tu viens de comparer le mariage de ta fille avec prendre le métro.
Le fait de prendre le métro.
Mais bon, on n'est pas là pour.
Vu que j'ai pas de fille.
C'est vrai.
Alors. Est-ce que dans le chat, on peut me dire si on m'entend ou pas maintenant? Je pense que oui, mais dites-moi toujours.
No lo sabo, no lo puedo, je ne sais pas.
C'est pour ça que je demande au chat.
C'est bon.
Voilà.
Attends, mais yep quoi? Yep mieux? Ah, c'est parfait.
On nous dit oui.
Vincent Bonal!
Il est là depuis un moment, tu sais.
Oui, je sais qu'il était là tout à l'heure.
Depuis son tracteur.
Ça fait bien plaisir, exactement.
Mais je ne lisais pas. Salut de mon tracteur. Ah oui, effectivement. Eh ben salut. du coup, allons-y, on disait Camille.
On est
pour le jingle.
Qui part.
Attendez de toucher le fond, monsieur. Et là, un bon coup de talon et vous remontez à la surface.
C'est un plan pour construire un pédalo en forme de canard, figure-toi.
Mais ça sert à quoi ?
Je crois que le son du jingle était abusément fort, mais on est parti.
Ah.
Quel jingle magnifique.
N'est-ce pas ? Pas n'est-ce pas ? C'est bon pour vous ?
C'est bon.
Ouais. Les micros, tout va bien ? Eh ben c'est parti. Allez, on est parti sur le naufrage de la Méduse. Donc quand je vous dis naufrage de la Méduse, vous pensez, comme je vous le disais, au tableau de Théodore Géricault. C'est probablement l'une des œuvres aujourd'hui les plus admirées au musée du Louvre et c'est sans doute une des œuvres françaises les plus connues dans le monde. Et donc derrière ce tableau se cache un fait divers qui est assez terrible et que je vais vous raconter un peu plus dans le détail aujourd'hui. Donc l'affaire de la Méduse, elle débute en juillet 1816, donc on est à l'époque de la Restauration. La Restauration, c'est peut-être un terme que vous entendez assez régulièrement, c'est la période d'après-Révolution française où on restaure la monarchie. Mmh. Les rois de France reviennent, on restaure la monarchie, donc Restauration. Et le roi en France à cette époque-là, c'est Louis XVIII, donc le frère de feu Louis XVI. Napoléon, il vient d'être déchu depuis à peu près un an. Et à la chute de Napoléon et de l'Empire napoléonien, bah, on a fait la paix avec nos voisins, notamment avec l'Angleterre, qui était notre grand ennemi. On va signer tout un tas de traités qu'on va appeler les traités de Paris. Et le Royaume-Uni va décider de rétrocéder des colonies et des comptoirs qui appartenaient à la France et qui étaient occupés par le Royaume-Uni. Donc rétrocéder, c'est-à-dire que c'était des colonies qui étaient à nous à la base. Pendant le conflit avec Napoléon, les Anglais nous les ont pris. Et là, comme il n'y a plus Napoléon au pouvoir, les Anglais nous les rendent. En gros.
Et donc là, c'était quoi? C'était 18e, 19... enfin, 18e,
début 19e siècle. On est en 1816. Okay. On est début 19e siècle.
C'était juste pour faire la logique en me disant, ok, donc début 19e, ouais. On était quand même à se dire, ok, cette terre, on va dire qu'elle est à nous, et il y a des gens dessus, et on va l'échanger entre pays.
Bah, en fait, si tu veux, c'était à nous, dans la tête des Français, depuis longtemps. Et puis les Anglais, ils ont dit, ah bah non, on n'aime pas Napoléon, donc juste pour vous faire chier, bah maintenant ce sera à nous. Et puis bah là, comme on a chassé Napoléon du trône, les Anglais disent, allez, comme vous êtes des gens sympas, on vous les rend, en gros.
Trop sympa. Pas.
Donc les colons anglais quittent ces colonies et on va envoyer des colons français à la place. Et en l'occurrence, on récupère parmi les comptoirs et les colonies qu'on récupère, on récupère le Sénégal. Donc il y a une flottille de 4 bateaux qui vont être envoyés au Sénégal avec à leur bord bah, toute la population nécessaire pour... Et parmi les 4 bateaux, on en a un qui s'appelle...
La Méduse.
La Méduse. Donc la Méduse, elle a 400 passagers à peu près, dont le gouverneur du futur comptoir et sa famille. Donc en fait, c'est elle qui a les passagers les plus importants. Tous les fonctionnaires d'État de la monarchie qui sont envoyés là-bas, des commerçants, des artisans, des domestiques, tout ce qu'il faut pour faire tourner en fait une province royale.
J'ai déjà appris un truc. Moi, je croyais que c'était un bateau avec des grouillots.
C'est un monsieur qui s'appelle Hugues du Roi de Chaumaret. On va juste l'appeler Chaumaret dans ce film. Et il fait pas du tout l'unanimité au sein de l'équipage parce qu'il est assez hautain avec l'équipage. Il parle plutôt mal à ses équipes et ça plaît pas énormément. Et en plus de ça, parce qu'il a pas eu de navire sous son commandement depuis 25 ans. La dernière fois qu'il a servi, c'était sous le règne de Louis XVI. Donc on s'est dit, ok, on nous ressort un peu un vieux commandant du placard. Et en fait, il a été nommé uniquement parce que c'est un fidèle serviteur de la couronne. Mais le type, il a perdu un petit peu sa capacité à commander un bateau.
Ok.
Donc on a la Méduse et les 3 autres navires qui quittent la France en direction du Sénégal. Et assez rapidement, Chaumaret, il va faire énormément de conneries qui font qu'il va perdre définitivement la confiance de son équipage. Dans un premier temps, il ne veut pas utiliser les cartes maritimes. Il se dit non, tu sais, le commandement, mec, c'est au flair, c'est à l'instinct. Et on va piloter comme ça, à vue de nez le Sénégal, c'est là-bas, j'y vais comme ça. Ouais, déjà, l'équipage, il se dit... Vas-y, ça pue, quoi. En plus de ça, il devait s'arrêter, faire une escale pour des ravitaillements. Il a oublié l'escale.
Génial.
C'est pas grave.
C'est pas comme si on marchait à l'essence, ça devrait passer.
Oui, ouais, et puis fait... je veux dire, voilà, buvez qu'un verre sur deux quand vous avez soif, et puis tout ira bien, quoi.
Il y avait un capitaine de Brooklyn qui savait un peu rien faire, et qui était genre, oh, regardez, j'ai trouvé de la coke. Du coup, ça me fait penser à ça.
Et... En autre bêtise, comme la Méduse, c'est une très bonne frégate qui avance vite, et ben, il ne veut pas être ralenti en attendant les autres navires. Donc en fait, il va s'isoler, il va les dépasser, il va abandonner les 3 autres navires de la flottille et il va se barrer tout seul avec la Méduse et les passagers. Ce qui n'est peut-être pas un très bon bail parce que l'avantage d'une flottille, c'est que s'il arrive quelque chose à un des bateaux, et bien, tout le monde peut s'entraider. Mmh. Et enfin, il se passe très volontiers de l'avis de son état-major. Donc, il est seul commandant à bord. Il ne veut pas du tout prendre en considération ce que son état-major lui dit. Donc, en fait, il faut s'imaginer qu'à bord de la Méduse, c'est un équipage qui n'est pas du tout soudé, avec énormément de tensions, et du coup, au moins 2 parties, celui du commandant et celui de ceux qui n'aiment pas le commandant.
Ça doit être sympa, ça. Déjà, la petite ambiance de mutinerie, là.
Ouais, hein.
Si je peux me permettre, comment il a fait pour se débrouiller jusqu'à ce que... Alors, il n'écoute pas son état-major, il n'écoute pas son équipage, il regarde même pas les cartes. Comment il a fini capitaine? Bon, t'as peut-être pas la réponse, mais je suis surpris.
Mais parce que et en fait, il a fini commandant parce qu'il a été nommé par les officiers de la couronne, parce que c'est un type qui a été très fidèle à la monarchie pendant la Révolution française. Et donc, du coup, bah, pour le remercier, c'était un mec qui était commandant 25 ans auparavant, on l'a remis à sa place de commandant, mais c'est clairement pas le mec le plus efficace et le plus aimé. Surtout qu'en fait, les membres de son équipage, c'est des jeunes qui, eux, sont issus des armées et de la marine de Napoléon, donc ils n'ont pas du tout reçu la même éducation militaire, si je puis dire. Ils fonctionnent du pareil et ils sont un peu dégoûtés d'avoir, d'avoir ce monsieur qui n'a plus rien à faire dans la marine et qui, en plus, est très désagréable, qui commande un navire comme la Méduse, en fait. Voilà, donc un bon bail de tension, quoi. Et on arrive à un moment assez complexe, en fait, au large de la Mauritanie, dans l'Atlantique, le long des côtes de la Mauritanie, sur 100 km le long des côtes. Il y a un endroit assez difficile à franchir pour les bateaux qui s'appelle le banc d'Arguin. Le banc d'Arguin, c'est des énormes bancs de sable sur des centaines de kilomètres et des hauts fonds. Donc, le bon bail à éviter pour des bateaux. Et quand on vient du nord, pour repérer le banc d'Arguin, eh bien, il y a un point qui s'appelle le Cap Blanc. Et tant qu'on n'a pas dépassé le Cap Blanc, il ne faut surtout pas se rapprocher des côtes, en gros.
Okay.
Et Chaumaret, un matin, il voit le Cap Blanc, il fait « c'est bon les gars, on peut se rapprocher des côtes ». Bon, en réalité, on découvrira des mois et des mois plus tard qu'il l'a confondu avec un gros nuage. Donc, tu vois.
Attends. Le Cap Blanc, c'est genre un pic de montagne.
Ouais, j'ai pas googlisé, mais je pense que c'est une grosse montagne blanche. Et puis le mec, il a vu un cumulus, tu vois. Et il s'est dit, c'est bon, c'est une grosse montagne blanche.
Putain.
Ah ouais, c'est chaud.
Ouais. Et y avait du vin à bord, peut-être, je sais pas. Toujours est-il que du coup, il se rapproche contre l'avis d'une bonne partie de l'équipage. Et l'équipage, voyant que l'équipage n'est pas rassuré, il va donner l'ordre de faire sonder assez régulièrement. Donc, tu sais, on sonde pour voir en fait à quelle profondeur se trouve le sol sous l'eau. Mm-hmm. Et puis, on sonde une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à chaque fois, on dit, non, c'est bon, on n'est vraiment pas au-dessus d'un banc de sable, tout va bien. Et le lendemain, la nuit passe, et le lendemain, on se dit, mais quand même, l'eau, elle est de plus en plus claire. Elle est vraiment même beaucoup trop claire. C'est quand même bizarre. Et lui, il ne veut pas qu'on sonde parce que c'est une perte de temps. Mais il y a des marins qui, en douce, vont sonder. Et ils découvrent qu'il y a 15 brasses sous eux.
Mais parce qu'en fait, si l'eau est claire, ça veut dire que le fond est proche.
Est très proche, ouais.
Ah oui, ok.
Et en fait, au moment où ils réalisent que c'est la merde, c'est déjà trop tard. Et la Méduse s'échoue sur un au fond, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que 5 mètres d'eau. Donc pour un navire comme la Méduse, c'est pas assez du tout.
Ah bah.
Voilà. Et donc c'est le 2 juillet vers 15h, donc en plein été, en plein cagnard, au large des côtes de Mauritanie, eh bien la Méduse s'échoue à 50 km de la terre ferme. Donc pas hyper loin en soi, il voit la terre ferme, hein, mais suffisamment loin pour pas pouvoir regagner la terre à la nage. Mmh. Et en plus de ça, on s'échoue à marée haute, donc en fait on peut même pas se dire vas-y c'est la marée basse, on va compter sur la marée haute, tu vois, pour nous dégager du truc.
Ça va être encore pire.
Ouais, exactement. Donc on s'échoue et on se dit c'est pas grave, oh les cœurs, qu'à cela ne tienne, on va manœuvrer pour se sortir de là. Les passagers qui sont à bord de la Méduse, c'est pas des passagers, faut pas vous imaginer que c'est des marins. On a effectivement des marins, des soldats, mais comme je vous ai dit, on a le gouverneur et sa famille, on a des fonctionnaires, des domestiques, des femmes, des jeunes enfants, donc pas des gens qui savent vraiment prêter main forte pour manœuvrer un navire et le sortir des hauts.
Ils vont pas descendre
donc,
et
déjà,
pousser,
ça,
quoi.
Non, tu vas pas demander au petit Timothée, 12 ans, d'aller pousser la Méduse.
En plus, il y a probablement la polio.
Ouais, en plus, ou le choléra, donc Timothée, dans ta chambre.
Est-ce que ça veut dire qu'il s'agirait presque d'un Titanic des pays chauds?
C'est un peu ça, mais en plus lent. C'est ce que je me disais ce midi, je me suis dit au moins Titanic, ils sont morts assez vite. Sans vouloir minimiser du tout la souffrance des passagers du Titanic, mais la Méduse, on est sur un autre genre de mauvais bail. Mais en gros, on se dit qu'il faudra alléger le poids du bateau. Donc on va construire un énorme radeau de 20 mètres de long et de 7 mètres de large. Et on va... Comment ?
Avec quoi ?
On va prendre des morceaux de mobilier, tout ce qu'on peut casser en fait du navire, tous les bouts de bois qu'on va pouvoir trouver. Et en fait, cet énorme radeau, il est destiné à recevoir les canons, les barils où il y a les boulets de canon et tout ce qui prend du poids en fait sur le navire, le gros mobilier, etc. L'idée, c'est de vider le navire, tout ce que contient le navire sur le radeau pour pousser le navire. Et pour ensuite remettre, une fois que le navire est dégagé, remettre le contenu du radeau dans le navire. Donc tu vois un peu le
en
truc.
En soi, pas con.
Et pas con du tout, sauf que ça fonctionne pas du tout. Pendant 3 jours, on essaye de dégager le bateau, quand même. Au bout du 3e jour, on y arrive, au moment où une tempête se lève et ramène à nouveau le navire sur les bancs.
Oui, mais les vacances sont gâchées.
La bonne grosse fausse joie. Sauf que là, le navire, il revient, il avait le vent dans le dos, donc il revient très violemment sur les bancs de sable. Et il va être totalement endommagé, il prend l'eau, c'est difficilement réparable. Donc, en fait, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut abandonner le navire et rejoindre la terre ferme par d'autres moyens. Mmh. Fort heureusement, il y a 6 canaux sur la Méduse. Et les 6 canaux peuvent accueillir au total 250 personnes. C'est comme le Titanic, en fait, on va avoir un énorme problème de canaux. J'ai l'impression que tous les bateaux, on ne prévoit pas assez de canaux. C'est la base.
Attends, mais c'est des canaux de 250 personnes en tout ou chacun?
Bon, avec les 6, ça fait 250.
Ah ouais, parce que
tu réunis les 6 canaux.
Sinon, ça fait des petits bateaux, quoi.
C'est ça, mais là tu réunis les 6 canaux, tu peux mettre 250 personnes, donc il y a 150 personnes eh bien, qu'on va devoir placer sur le radeau. Donc on va remettre les canons, etc., on va décharger le radeau pour remettre le contenu du radeau dans la Méduse, et on va inviter les 150 personnes restantes à monter sur le radeau. Alors pour savoir qui va dans les canaux, le commandant et le gouverneur ont fait une liste secrète, et puis en fait, c'est comme pour le Titanic, c'était par classe et par grade que tu pouvais avoir accès aux canaux, et les soldats, les petits marins, et les officiers les moins gradés, et puis tout ce qui était artisans, domestiques, eux se sont vus octroyer des places sur le radeau. Donc les premiers vont monter sur le radeau s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et très rapidement, le radeau, en fait, avec le poids qui n'est pas du tout conçu pour porter des hommes, avec le poids, va passer sous l'eau. Donc ce n'était pas du tout une embarcation sur l'eau, c'était une embarcation sous l'eau. Et les gens sur le radeau se retrouvent avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse.
Ils n'auraient jamais gagné l'épreuve à Koh-Lanta.
Non, jamais. Et du coup, tout le monde se met un peu à flipper. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne veulent plus du tout embarquer sur le truc. Et donc, on va les forcer à monter en les menaçant avec des armes.
Ah.
Donc, ouais. Et il y a 15 personnes, retenez-les bien, il y en a 15 qui, eux, disent « Hors de question, on ne montera pas sur votre petit radeau à la con, on préfère rester dans l'épave et on attend les secours. »
Mais si je peux...
Dis-moi que c'est les seuls qui ont survécu.
Tu verras bien.
Je me demande quand même quelle est la logique d'essayer de forcer les gens à être sauvés. Genre, monte dans ce radeau où je te bute. Genre,
non, parce que...
Bah, mais c'est pas être sauvé par défaut, c'est une stratégie potentiellement bancale pour être sauvé, quoi.
Oui, et ce que je veux dire, c'est que forcer les gens à aller dans le radeau, que t'essayes de forcer les gens par les armes à ne pas rentrer dans le radeau, ça j'entends bien, parce que bon, c'est pas intelligent, mais j'entends, mais essayer de les forcer à rentrer dedans, bah c'est genre... Bah...
Mais pour pas qu'ils essayent d'aller sur les canaux qui étaient beaucoup plus stables et beaucoup plus viables, et que du coup, ils renversent les canaux.
Ah, d'accord.
Je pense que c'était totalement d'éviter ça, tu vois. Parce qu'à mon avis, personne, à part les 15 loulous, personne n'était très chaud pour rester non plus à bord de la Méduse, je vous le rappelle, sur un banc de sable, en juillet, au large de la Mauritanie, tu vois.
Ouais, puis niveau eau potable, ça doit pas être foufoufou.
Ouais, puis sans être sûr que quelqu'un viendra te récupérer, t'es à 50 km de la côte, enfin, voilà. Donc,
okay,
et donc, au final... Au final, on a 157 personnes qui montent sur le radeau. En plus, cette montée, ça s'est fait de nuit. Donc, vous imaginez la cohue, la menace des armes, il y a des enfants. Voilà, c'était un peu sportif. Et on va filer des vivres aux gens sur le radeau. Donc, en vivres, on a, c'est assez sommaire, de l'eau, du vin, de la farine et un sac de biscuits pour 157 personnes.
C'est peu.
Yes.
Voilà. Et pendant ce temps, le groupe... Et pendant ce temps, le gouverneur et sa famille sont chargés en fauteuil, en fait, sur leur bateau. On va faire porter leur fauteuil dans le canot. Tu vois, il y a deux salles, deux ambiances.
Et juste pour s'il y en a qui ne visualisent pas, parce que tu dis 50 km de la côte, quand on voit des athlètes qui traversent la... Merci, je baffe. Quand on voit des athlètes qui traversent la Manche à la nage, c'est déjà un peu vénère, c'est genre 35 km, je crois, de mémoire, la traversée de la Manche.
Ouais.
Donc voilà, c'était mort quoi. C'était pas, on peut pas se dire, oh, 50 bandes ça passe. Non, c'est chaud quand même.
Et puis je pense qu'au moins 50% des personnes qui étaient à bord de la Méduse ne savaient pas nager.
Oui.
Aujourd'hui,
c'est vrai.
La nage, ça nous paraît une solution de facilité parce qu'on a tous de la natation à l'école. Mais rappelons-le, la mort par noyade est beaucoup, beaucoup plus courante il y a ne serait-ce que 100 ans. Donc du coup la nage, enfin j'ai oublié de vous dire aussi que c'est une zone à requins.
Bien sûr, pourquoi pas.
Voilà. Non mais
je préfère me faire bouffer par un requin que qu'on me souffle de la fumée dans le cul comme Nicolas Martin.
C'est vrai. C'est vrai. Donc le bail, le concept, parce qu'une fois que tout le monde est sur le radeau, c'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les six canaux, en fait, avaient attaché des cordes au radeau, et le but du jeu, c'était de les remorquer jusqu'à la terre ferme, en fait. Parce que les six canaux ont des rames. Le radeau n'a pas de rame. N'a pas de rame, n'a pas de voile, donc ce n'est pas manœuvrable.
Même pas un truc, un bâton, rien ?
Ah, rien, non.
Okay.
À la mano.
Ah oui, donc quand on dit radeau, c'est planche de bois.
Oui, mais oui, parce qu'en fait, un radeau, on appelle ça le radeau de la Méduse, mais le terme est faux, étant donné qu'un radeau, c'est une embarcation de fortune, mais qui est destinée quand même à être navigable. Le radeau de la Méduse, en soi, ne l'était pas, et d'ailleurs, les personnes qui étaient à son bord, très rapidement, au bout du deuxième jour, vont l'appeler la machine, et non pas le radeau.
Okay. Oui, parce que ça serait comme, enfin, pour faire encore, désolé, je t'interromps beaucoup, mais non, le parallèle avec Titanic, ça serait comme dire que Rose n'a laissé aucune place sur le radeau. Non, elle n'était pas sur un radeau, elle était sur une putain de porte. Quoi.
Ce radeau, j'ai prévu de vous le décrire un petit peu plus tard, de toute façon.
Vas-y.
Vous en faites pas. Donc juste, voilà, les six canaux, en fait, ils doivent remorquer le radeau. Sauf que, comment tu veux remorquer un truc qui est sous l'eau, comme je vous l'ai dit, avec le poids des gens, il est quasiment sous un mètre d'eau, le radeau. Un mètre, j'exagère un peu, mais en tout cas, 60 bons centimètres. Donc il est intractable. Et au bout de 2 heures de galère, on ne sait pas si c'est volontaire ou non, il y a des témoignages divers selon les survivants des canaux, toujours est-il que les cordes qui rattachaient le radeau au reste sont lâchées, sont cassées selon les versions, et les canaux de sauvetage ne feront pas de demi-tour pour aller chercher des occupants, et les occupants du radeau dérivent dans l'océan Atlantique.
D'accord.
Côté côte. J'ai
vu une carte avec le trajet tout à l'heure. En fait, ils ont dérivé le long de la côte.
Ok, bon, ça va.
Voilà.
Ils
s'éloignant un peu, mais toujours le long de la côte, mais à un peu plus de 50 km de la côte, à 60-70 km. Ils s'éloignaient un petit peu et ils dérivaient en direction du sud.
Ce serait toi, Ilias, okay. Je garderai mon. Oh, ça va, de côté. tu vas voir.
Ouais.
Oui, c'est vrai, j'avoue.
C'est chaud patate. Donc du coup, le radeau, 20 mètres sur 7, on peut se dire que c'est assez correct, mais dans les faits, pour 157 personnes, c'est que dalle. Il n'y a pas assez de place pour s'asseoir. La population sur le radeau, elle est essentiellement jeune. Il y a des enfants, plusieurs enfants, et il y a au moins une femme. Il y a au moins une cantinière. On ne sait pas s'il y en avait plusieurs. Au centre, il y a un espèce de mât avec un genre de voile de fortune avec un drap qui a été fait. Mais c'est plus un truc pour s'abriter du soleil qu'une vraie voile. Et autour de ce mât, qui représente la stabilité centrale du radeau, on va mettre les tonneaux qui contiennent les vivres. Et les officiers, les quelques 15 gradés qui sont à bord du radeau, deviennent l'état-major du radeau. Et eux, ils se mettent au centre, au niveau sur la zone de stabilité du radeau.
Et oui, équilibrer le poids, voyons.
Bien entendu. Les autres personnes, donc personne ne peut s'asseoir. Et il n'y a, y a rien pour se cramponner, en fait. Tu te tiens à ton voisin. Donc tu vois l'équilibre du truc. Et donc les autres personnes sont debout et très rapidement, dès les premières heures, toutes les personnes qui sont au bord tombent et ne sont pas récupérées nécessairement. Elles sont récupérées quand on peut, mais on ne peut pas toujours parce que, je vous l'ai dit, il n'est pas manœuvrable, le truc. Donc dès qu'il y a une grosse vague, pouf, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont projetées par-dessus bord. Et toutes les personnes sur ce radeau, en plus de ça, elles ont les membres inférieurs dans l'eau pendant toute la durée de l'histoire que je vous raconte. Et vous allez voir que ça va durer longtemps. Les derniers survivants, ça met du temps.
Ah, mais parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, où l'embarcation était immergée, c'est toujours le cas ?
Et ce sera le cas jusqu'à ce que le radeau soit retrouvé.
Ok, donc ça veut dire que
ça va au fur et à mesure que le radeau s'allège, de moins en moins, mais mais je pense que ça a joué clairement. Sur le tableau de Jéricho, tu vois que très souvent, ils ont les personnes sur le radeau, ils ont les pieds emballés en fait dans des linges, mais c'est parce que les survivants, ils ont raconté qu'en fait, au bout de toute cette période dans la flotte, leurs membres inférieurs, ils avaient plus de peau, quoi. À force. Bah ouais, tu sais, quand tu prends un bain et que tu laisses tes mains dans l'eau une heure, tu sais, t'as les mains toutes fripées. Donc tu te rends compte au bout de plusieurs jours ce que ça peut donner, quoi. Donc voilà. Alors, première nuit, grosse tempête. Ils perdent une bonne partie de leur tonneau de vivres et ils ont une trentaine de morts. Deuxième nuit, grosse rixe entre les officiers et les soldats. En gros, les.
C'est quoi ?
Ouais, en fait, les soldats se sont dit, là, quoi qu'il arrive, on va mourir, et donc ils étaient d'avis pour la plupart de s'aborder le navire. Et de se laisser tous mourir. les officiers étaient là, non, on va y arriver. Ils ont fini par se battre au sabre. Sur le truc, non mais tu te rends compte face aux civils et tout, et ça a fait 69 morts.
Juste le duel au sabre.
Ouais, bah entre les gens qui ont dû tomber, ça s'est passé de nuit. Ils ont pas de lampe torche, ils ont que dalle, ils ont que le clair de lune. Donc entre les vagues, les gens qui sont tombés, les gens qui se sont blessés avec le sabre, 69 morts pendant la nuit. Ils ont compté au petit matin, ils ont fait l'appel. Boris.
C'est vraiment la version hardcore de la personne sur un pont de singe qui s'amuse à faire bouger, tu sais.
Ouais, non mais exactement. Alors, et le
depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'image où je sais pas pourquoi j'avais un mélange de genre Titanic et Pirates des Caraïbes, et j'adorerais que Disney fasse un espèce de Pirates des Caraïbes like à partir de ça. Ça serait ouf, t'imagines la scène où de nuit ils commencent à se battre au sabre et.
Les pirates de Mauritanie.
Ouais. Je pense qu'à vivre c'est moins fun qu'au cinéma, mais au cinéma.
Ouais, il faudrait bien réécrire la fin aussi parce que Disney c'est pas.
Ouais, ouais. Totalement. Non, c'est... il est pas dit, cette histoire non. Elle est pas dit. Disneyable du tout. À partir du troisième jour,
ils ont bien réussi à retourner d'autres situations un peu lugubres. Disney, on peut leur faire confiance quand même.
Oui,
on
peut
Genre, juste ce qu'ils ont fait avec le bossu de Notre-Dame, rien que ça.
C'est ça.
C'est voilà, c'est des voilà, déjà tout a été fait avec ça. Donc le troisième jour, on se réalise qu'on n'a plus de provisions solides. Il reste que du vin. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, et que du vin. Donc il faut partir du principe qu'à partir du maintenant, ils sont bourrés assez vite, assez facilement. À jeun, sous le soleil, le vin, il monte vite. Donc pour prendre des décisions, c'est un bon bail. Et on commence à avoir assez faim, parce que jusqu'ici, on a quand même mangé que le sac de biscuits, qui à mon avis est parti assez vite, et de la farine. Donc pareil, en termes de nourriture, 20 farines, ça devait te faire un truc bien sympa en bouche, quoi.
Alors oui, et mais donc, du coup, pour faire de la pâte à pizza, t'as pas besoin de saler la flotte.
La pâte à pizza bourguignonne.
Ah, non, 20 farines, je vois rien, à part, à part un début de sauce bourguignonne, tu peux rien faire.
Non, ça doit... Puis que ça en bouche, ah, oh, il devait puer de la gueule aussi. Hein. Non, ça doit être
c'était
pâteux.
Probablement le cadet de leurs soucis.
Je pense, mais très sincèrement. Et on va essayer de pêcher des poissons, notamment des poissons volants, mais pas assez pour nourrir 100 personnes. Donc on va commencer à manger des cordages de chanvre. On va manger le cuir des chaussures et des lacets. Et puis au bout d'un moment, bah, on va se résoudre à manger le corps de ceux qui sont morts. Donc il y a un médecin sur le radeau, Savigny, qui a une partie de son ses outils de chirurgien et qui va bah, prélever des parties saines sur des corps sains, qui va les sélectionner, qui va la faire sécher pour que ce soit plus tolérable en goût et en bouche, parce que c'est un cap à franchir pour la plupart des passagers et des occupants du radeau, vous vous en doutez. Mmh. Et lorsque la... Ouais.
Ouais, sans mauvais jeu de mots, un cap à passer, ouais, mais tu m'étonnes, quoi, c'est... Ouais. Ça peut être traumatisant.
Oui, absolument.
Et surtout, t'imagines quand c'est quelqu'un de ta famille, quoi.
Mais je pense que ça arrivait parce que c'était des familles qui allaient s'installer là-bas, donc malheureusement, c'est totalement arrivé. Et c'était la condition de survie. La question qui subsiste aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont résolus aussi vite à manger les corps, étant donné qu'ils ont fini leur provision le soir et le lendemain matin, ils étaient déjà à la bouffe sur les corps. Et souvent, dans des cas comme ça d'anthropophagie forcée, le déclic se fait au bout de 4-5 jours, une semaine, tu vois.
Là, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a canné sur le radeau, qui était en bon état, et ils ont fait off.
Bah, je pense qu'il y a eu des trucs... Et c'est ce qui va choquer, c'est marrant, mais quand l'histoire des mois plus tard va être dévoilée en France au grand public, c'est ce qui va choquer le plus, c'est cette anthropophagie en fait. On va complètement oublier le naufrage pour parler de cette anthropophagie. Et les survivants ont dû beaucoup se justifier en fait quant à ça, et ont été beaucoup questionnés. Sauf que bah, c'était la seule solution quoi, hein, pour survivre de toute façon. Mmh. Donc voilà, donc il y a la faim, il y a la dispute, il y a la peur, hein, je pense, je ne l'ai pas évoqué, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'évoquer la peur? La fatigue constante pour maintenir l'équilibre du radeau, parce que dès qu'il y a une grosse vague, il y a un survivant qui expliquait que dès qu'il y a une vague, donc toutes les 10 minutes, et bah, tout le monde est obligé de courir de l'autre côté du radeau pour éviter que le bateau, enfin que le radeau ne se retourne. Et d'ailleurs, il ne s'est jamais retourné. Donc, ils ont quand même été hyper vigilants tout le temps. Donc, ils ne dormaient jamais. Il y a les suicides. Il y a eu énormément de cas de suicides de gens qui ont craqué et qui ont fini par sauter d'eux-mêmes à l'eau. Et il y a les exécutions de tous ceux qui volaient des provisions ou qui se comportaient pas bien, quoi, qu'on balançait à l'eau également.
Tentative d'établir une politique sur un bout de bois, quoi.
Mais totalement, non, mais c'est un, tu vois, une micro-société qui va se créer, en fait. Et le 15 juillet, donc 10 jours après la construction, enfin le départ du radeau, il n'y a plus que 27 survivants sur le radeau. Mmh. Et 12
d'entre
eux.
C'est pas
dégueu. Non, sur 157.
C'est pas joli, vu les conditions.
Il y a eu 130 morts, quoi.
Juste ce que tu viens de nous décrire, genre, ils sont perdus au milieu de la mer avec de la flotte jusqu'aux genoux. Des militaires qui font la loi et donc des armes, peu de ressources. J'essaie d'être positif et je me dis, belle performance quand même.
Oui, ah non, mais c'est hallucinant. Mais c'est presque ça. Hein. Étant donné que parmi les 27 survivants, il y en a 12 qu'on juge totalement mourants et sans doute à juste titre, qu'on va décider de jeter vivants dans l'eau pour permettre aux bien portants de récupérer leurs rations et donc d'avoir plus de chances de survie et pour continuer à alléger le radeau. En fait, les derniers survivants, ils veulent tenir le plus longtemps possible parce qu'ils sont convaincus qu'on va leur envoyer des secours et qu'ils vont être retrouvés. Donc, tu sais, ils font le calcul dans leur tête en se disant les canaux, ils vont mettre 3 jours à atteindre la terre ferme, le temps qu'ils préviennent, qu'ils nous renvoient quelqu'un, il faut qu'on tienne encore 4 jours. Tu vois, ils se sont fait des calculs, en fait. Mmh. Et justement, les canaux, pour parler d'eux, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis ? Eh bien, le canot du commandant, c'est un des premiers à arriver. Comme de par hasard, hein, Chaumaré, il arrive tranquille. Ils vont quand même vivre un petit calvaire, étant donné qu'ils ont manqué d'eau. Ils ont mis 3 jours à arriver sur la terre ferme. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de provisions, ils se sont tapés des insolations. Je crois qu'il y a quand même eu quelques morts. Il y a toute une partie du groupe qui s'est fait arrêter par des populations locales. Enfin, donc il a fallu les délivrer. Enfin, ils ont eu toute une épreuve, hein, eux également. Et arrivé sur la terre ferme, Chaumaré, il retrouve les 3 autres bateaux, vous savez, de la flottille qui était partie avec la Méduse, qui eux sont arrivés à bon port. Mmh. Et il va leur dire, ce serait bien de retourner. Non pas voir s'il y a des survivants, mais retourner dans l'épave de la Méduse parce que j'ai des sacs d'or là-bas à récupérer. Et donc du coup, on envoie un des bateaux là-bas. Et en cours de chemin, l'Argus, c'est un brick qui s'appelait l'Argus, eh bien, il découvre avec stupéfaction le radeau Méduse le 17 juillet, avec à son bord 15 survivants moribonds, après 12 jours de dérive. Ils vont secourir les 15 personnes, et sur les 15, il y en a 5 qui vont mourir avant d'avoir atteint la terre ferme. Et on pense qu'à 3 ou 4 heures près, il n'y aurait eu aucun survivant de la Méduse. Et parmi ces survivants, il y a le médecin Savigny, qui va témoigner énormément concernant l'histoire du naufrage lors de son retour en France. Donc voilà, sur les 157 passagers du radeau, 10 survivants et à un prix assez considérable. Le 26 août 1816, donc 52 jours après le naufrage de la Méduse, on retourne sur l'épave, on avait complètement zappé entre-temps, on retourne sur l'épave pour récupérer les 15 qui n'avaient pas voulu aller sur le radeau. Bon bah, il n'y en a que 3 qui ont survécu.
Ah
ouais. Hey, ça fait 20 ans.
Mais ils se sont pas bouffés entre
ça
eux.
Ça fait 20% le mec.
Et ouais.
Excusez-moi, attends, vous êtes de droite.
Mais non, ils se sont dit, vraiment, ça pue du cul. Imagine le mec, il s'est dit, ou la meuf, ils se sont dit, genre, ça pue du cul sur le radeau. Vas-y, ils vont s'étriper, ils vont manger des êtres humains et tout. Bon, nous, on reste ici, on a froid, mais au moins, on bouge pas. Bon, certes que 20% de réussite, mais 20% quand même.
Ah non, mais puis l'enfer, 52 jours, ils sont restés coincés, quoi. Enfin,
c'est long, 52 jours.
Ouais, mais je pense qu'ils sont morts déshydratés, quoi, parce qu'en termes d'eau, je pense que c'est ça qui a fait que, tu vois.
Bah ouais, puis en plus, c'était en été, donc insolation totale.
Absolument. Des bancs de sable, le soleil qui se reflète, enfin, le top du top.
Ilias, tu te rappelles, Ilias, mon visage au Maroc.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, je pense que nous n'aurions pas fait long feu. Voilà.
Alors bah, du coup, bah, les survivants, pour certains, du radeau de la Méduse vont devoir rester au Sénégal pendant plusieurs semaines avant de pouvoir envisager d'être rapatriés en France. Parce que voilà, il y en a certains qui arrivent, enfin c'est même pas certains, c'est tous, ils arrivent dans des états absolument déplorables sur la terre ferme. Et en France, l'affaire est révélée parce que il y a une enquête qui est ouverte tout simplement pour comprendre le pourquoi du comment de ce naufrage. Mmh. Et en mars 1817, suite au témoignage et face à une opinion publique qui est complètement indignée, eh bien Chaumaret, il est jugé et il est condamné à 3 ans de prison et il est dégradé. Le mec, il risquait la peine de mort quand même et il s'en sort avec seulement 3 ans de prison. Donc il s'en sort hyper bien. Il fait ses 3 années et il finit sa vie au chaud dans sa résidence de campagne.
Salaud.
Il meurt des dégradé. Plus tard. Ouais. Non, vu qu'il était militaire, il a été jugé par un tribunal militaire, j'imagine.
Ouais, okay. Ouais, tout à fait. Ouais.
Ah bah, pareil, je suis peut-être très optimiste, mais je trouve que c'est pas très très cher payé. Hein. Genre, 3 ans de prison et dégradé.
Non, pas du tout. Et d'autant plus que tu vois, t'as un des survivants qui s'appelle Coréard, je crois. Il était vraiment hyper mal en point et au point et il a vraiment failli mourir en arrivant au Sénégal. Donc lui, je crois que c'est celui qui est rentré en dernier. Il est resté des mois et des mois dans un hôpital au Sénégal. Ensuite, il a dû le pauvre remonter sur un bateau. C'est le flip de ta vie, je pense. La moindre vague, tu trembles. Et il est arrivé à Marseille. Et à Marseille, en fait, enfin, je veux dire, il n'a pas eu de bourse de l'État ou quoi que ce soit. Il a dû rentrer à pied à Paris. Et il est tombé en dormant chez des gens et tout. Il est tombé sur des gens sympas qui lui ont payé des diligences, etc. pour rentrer à Paris. Et arrivé à Paris, il a dit « Non, mais attendez, enfin, moi, j'ai tout perdu dans ce naufrage. Il avait encore une forme physique de merde. Enfin, je pense qu'il a gardé des séquelles à vie. Et il a demandé à avoir quand même une petite aide de l'État, quoi. » Parce que déjà, avoir été abandonné par le commandant de bord sur un radeau de merde, tu vois, c'est déjà un bon pas de manger de la chair humaine pour survivre. Et en plus de ça, il a dû se taper un Paris-Marseille à pied au retour. La bonne promenade. Le bon road trip.
Juste pour revenir sur la peine du mec, le pilote du Costa Concordia, il s'est quand même lui pris 16 piges.
Ouais. Bah, mais qui fait pas en ferme, je crois, si. Il n'y a pas eu un scandale comme ça.
Ça vaut que viens de le chercher sur Wikipédia.
En tout cas, je sais qu'il a écrit un livre qui s'est hyper bien vendu et il est devenu une superstar en Italie. Donc, s'il est en tôle, il est en tout cas très très riche.
Moi, Concordia.
Ouais. Il a écrit un livre où il raconte sa vision, tu vois, du Concordia et ça s'est hyper bien vendu en Italie. Ouais.
Non, sérieux?
Bah, ouais. En vrai, c'est. Enfin, moi, j'ai envie de le lire, tu vois. J'ai envie de savoir.
Ouais, j'avoue.
Mais oui, non, mais totalement. C'est. Exactement. Et donc du coup, cette histoire en France, on en parle énormément. Enfin, c'est quand même un naufrage qui est loin d'être banal et une histoire qui est quand même dingue. Et on a Théodore Géricault, peintre de son état, qui va se passionner pour ce fait divers. Et dès le début 1818, donc un an et demi après le naufrage, il se documente, il rencontre les rescapés, il va reconstituer dans son atelier le radeau, et il va aller à la morgue récupérer des cadavres, etc., qui va laisser moisir un petit peu. Si, hein. C'est quand vous voyez la toile, la prochaine fois que vous irez au Louvre, vous vous direz « Ah !» Il l'a pas fait, il l'a pas imaginé, hein. Il a vraiment allé choper des cadavres, et il a peint en un an. Il a peint cette toile, qui est une toile hyper politique, hyper... Il y aurait tout un tas de choses en fait à dire autour de cette toile. Mais par exemple, il a mis. C'était une période où il défendait vraiment, et il avait tout à fait raison, hein, il défendait l'abolition de l'esclavage. C'était une période où les débats avaient réouvert. Et donc on sait qu'il y avait une seule personne de couleur à bord du radeau de la Méduse, et lui, il en a mis plusieurs, je crois. Voilà, il a changé ce type de détail. Il en a profité pour faire un tableau politique, mais c'est néanmoins un tableau qui est très joli. Il a hésité longtemps avant de savoir quelle scène il allait peindre. Il a hésité à peindre le moment où les gens sont montés de force sur le radeau. Il a hésité à peindre la scène de Rix de nuit, où ils se sont battus. Il a hésiter à peindre des scènes d'anthropophagie, et au final la scène qu'il a choisi d'interpréter, c'est celle de l'espoir, étant donné que c'est celle où au loin on le voit en tout petit mais à peine visible sur le tableau, un tout petit point, on voit un bateau qui passe au loin, Et en fait, c'est le moment où ils se sont dit, ça y est, on est sauvés. Et où ils agitent les bras, etc. pour faire.
On les voit faire coucou.
Exactement. Donc, il n'a pas en fait le seul moment d'espoir que ces gens-là ont eu. Le roi Louis XVIII est allé voir l'œuvre lorsque Géricault l'a fait exposer. Et il a dit, toujours les bombes, Louis XVIII, il a dit, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. Et effectivement, la seule œuvre célèbre de Géricault qu'on retient, c'est celle-ci. Et enfin, pour finir, la même année, en 1818, Savigny, le médecin qui a survécu, qui était, alors je vous dis médecin, mais il était étudiant en médecine, et il veut obtenir son grade de docteur en médecine cette année-là. Donc il sert quinqué, il reprend ses études, il pète le feu. Et bien lui, il va rédiger une thèse, donc sa thèse pour obtenir son grade de docteur. Elle a pour thème « Observation sur les effets de la faim et de la soif éprouvés après le naufrage de la frégate La Méduse ». Et on peut dire qu'il l'a eu, étant donné qu'il a plutôt bien maîtrisé son sujet. Voilà. J'ai trouvé ça assez dingue qu'il ait décidé de faire sa thèse là-dessus.
Il a pu s'auto-citer dans sa thèse, trop cool.
Ouais, je pense. Mais en fait, c'est ce que je me disais, ce qu'il a vécu est effroyable, ce qu'ils ont tous vécu est effroyable, et puis enfin, voilà, le concept de cannibalisme, etc. Enfin, c'est complètement dingue. Mais lui, après, d'un point de vue extérieur, en tant que médecin, il a vécu une expérience qu'aucun autre médecin vrai. N'a pu jamais vivre, en fait.
Oui,
En enlevant tout le côté émotionnel et dramatique de la chose, juste en prenant les faits, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Et je pense que heureusement qu'il était à bord du truc. Je pense qu'ils ont eu énormément de chance d'avoir eu un officier de médecine à bord. Donc voilà, désolé, c'était un petit peu long.
Pas buté dès le début. Non, c'était trop bien.
C'était super intéressant.
Mais voilà, cette histoire mérite d'être connue. C'est pas un naufrage tout simple. C'est un naufrage que je trouve terrible. Et donc maintenant, je pense que tu comprends quand je te disais que le Titanic, ils s'en sont plutôt bien sortis. Voilà, ils sont certes morts et c'est effroyable, mais ils ont eu au moins
et puis avec le froid,
une belle histoire à raconter.
La possibilité de mourir vite, quoi. Ouais, exactement. Si vous cherchez une petite histoire à raconter à vos enfants le soir pour qu'ils trouvent le sommeil, eh bien le radeau de la Méduse me semble tout indiqué.
Et bravo.
Et juste petite précision, j'ai eu le temps de faire le Père Lachaise en long et à travers pendant les confinements. Il y a la tombe de Géricault et puis sa tombe sur le devant, c'est justement le radeau de la Méduse.
Ouais, et exactement. Et si vous allez voir cette tombe, qui est assez facile à trouver, elle est sur une grosse allée. Il est, pour la petite histoire, il est représenté allongé parce que il était invalide. Il a fait une chute de cheval quand il était assez jeune, je crois. Mmh. Ouais. Et donc en fait, il a peint. C'est quand même dingue. Il a peint cette toile avec un volume de dingue en étant allongé, il n'avait pas la possibilité de mouvoir ses membres inférieurs, Géricault.
Il devait avoir des abdos de malade.
Non, mais c'est complètement fou. Moi, je me demande comment il a peint cette œuvre, quoi.
En plus, on part sur les détails totalement psychotiques qui, je ne suis pas sûr, intéressent grand monde, mais tu dis la toile, on disait tout à l'heure, elle fait genre 7 mètres sur 4, un truc comme ça. Et donc, avec la toile plus le cadre plus la peinture, elle doit peser 20 kilos, ça rase, quoi.
Ouais, et puis le pire, elle a failli ne pas finir au Louvre, elle a failli être perdue cette toile. Ouais, deux petits détails du coup là-dessus, c'est qu'elle a failli être perdue parce que à la fin de l'expo, donc en gros il l'a fait exposer, et à la fin de son année d'exposition, personne n'avait les moyens de la racheter. Enfin, en gros, elle avait rencontré tellement de succès qu'elle coûtait hyper cher. Il y avait des survivants qui voulaient la racheter en souvenir, c'est super, hein, le truc bien glauque. Oh regarde, c'est moi en train de dévorer papy. Quelle horreur. Et donc personne ne lui a racheté, il n'a jamais pu la revendre. Et en fait, c'est à sa mort, on l'a retrouvée dans un coin de son atelier roulée, quoi. Et on s'est dit, bon bah allez, on la fout au Louvre. Ça fera bien.
Ça
il
fera
nous reste
joli.
Un cadre. Non, ça fera joli.
Il nous reste un cadre de 7 mètres sur 4.
et le deuxième truc, c'est que je ne sais plus exactement quelles sont les mesures précises de la toile. Mais il y a effectivement, je crois qu'elle fait bel et bien 7 mètres de large. Je ne sais plus si c'est en hauteur ou en largeur qu'elle fait 7 mètres. Mais je crois que c'est en largeur.
Je vais te dire tout de
et
suite.
C'est voulu, c'est parce qu'il a
fait 4,91 m par 7,16 m.
Voilà, et ben le 7 mètres, il l'a voulu pour faire la même largeur que le radeau. Pour que les gens puissent se rendre compte en voyant la toile. Voilà. Quand vous irez passer une petite tête au Louvre, allez-y. Quand vous êtes à la Joconde et puis vous irez voir la Joconde, c'est rare de passer au Louvre sans aller. Vous êtes vraiment à 30 secondes à pied du radeau de la Méduse.
Ne montez pas sur la toile, vous aurez des problèmes.
Ouais, vous aurez. Puis il y a plein de toiles sympas. Ouais, je crois que c'est juste à côté de la Liberté Guy dans le Peuple, donc vous ferez une pierre deux coups, quoi.
Et en termes de rêves culturels, si vous voulez des histoires de radeaux et de cannibalisme, vous avez la saison 1 de la série The Terror qui parle plutôt de cannibalisme que de radeaux, mais pareil, ça part surtout d'un commandant complètement incompétent qui se retrouve avec un équipage qui voudrait avoir un autre commandant et des débuts de machin et tout ça, donc intéressant. Et vous avez le film In the Heart of the Sea qui est en fait Moby Dick. Mais au lieu de se concentrer sur la chasse à la baleine, ça se concentre sur l'autre partie du roman qui est plutôt on est sur des radeaux et on est obligé de s'entrebouffer pour survivre.
Oh.
Qui est assez intéressant aussi parce que gros budget, c'est avec Tom Holland et pas mal d'acteurs. Enfin voilà, c'est plutôt sympa à voir.
Ah, c'est bon, ça va.
Si je peux me permettre du coup une autre, si on parle de ce genre d'expérience, une autre suggestion, là pour le coup c'est pas du côté radeau, mais vraiment du côté effectivement enfermement avec plusieurs personnes, le bouquin qui s'appelle « À l'estomac » de Chuck Palahniuk, qui est, comme tous ces bouquins, pas facile à lire, on va pas se mentir, mais qui joue beaucoup sur les... En fait, c'est l'histoire d'une retraite d'artistes qui se disent « Allez, on n'a jamais réussi à écrire l'œuvre de notre vie, donc on va s'enfermer pendant 3 mois, et au bout de ces 3 mois, on va être coupé du reste du monde et on va faire que écrire. Et on veut sortir de là avec l'œuvre la plus ouf de notre vie. » Sauf que, pas de spoiler, ça tourne mal et oui, c'est pas joli ce que peut bon, c'est une fiction bien sûr, mais c'est pas joli ce que peut faire l'âme humaine dans ces situations.
Les salauds.
Totalement.
Et trop cool ton sujet, ouais. Et vraiment sans aucune blague, merci, ça m'a beaucoup trop donné envie de voir un film dessus, pas forcément le truc ultra catastrophe, mais il y a trop moyen de raconter cette histoire.
Regarde,
il y a un film de la fin des années 90, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais il y en a un.
Bah, il n'a pas marqué les esprits, mais si tu veux avoir la même ambiance, vraiment, tu peux regarder In the Heart of the Sea, tu vas avoir grosso modo l'expérience, quoi.
Ah non, moi je voulais voir des trucs avec Jack Sparrow et tout, mais ok, je regarderai ça.
Ni, c'est pas rigolo le film non plus.
Mais c'est le radeau de la Méduse, ça reste un sujet tristement d'actualité, dans le sens où aujourd'hui, tous les jours, beaucoup d'hommes et de femmes franchissent la Méditerranée dans des conditions même encore pires que celles du radeau de la Méduse. Et on n'en fait pas des tableaux, malheureusement.
En effet.
Et puis ce naufrage n'est pas sans nous rappeler effectivement un autre naufrage assez récent, qui est celui du Parti Socialiste, qui malheureusement n'a aucun sens.
Je me demandais où t'allais partir, vraiment.
Je me sentais obligé, je me dis, je vais mettre trop mais de temps.
Et puis, eux aussi, ils se dévorent entre eux, non?
Oh, allez. Allez, c'est politique. Allons-y.
Oui, c'est rigolo. En tout cas, trop cool, merci, trop bien.
Merci à vous.
Mais tu reprends la main, donc, Ilias.
Je reprends la main, mais je vais très certainement la redonner. Mais ouais, en tout cas, trop bien. Et ça me fait très très plaisir de revenir sur ce petit enregistrement. Enfin, cet enregistrement de sujet, parce que ça m'a rappelé à quel point c'était cool de faire ces enregistrements avec vous. Donc vraiment chouette. Bon, ça parle souvent de gens qui meurent et qui souffrent, mais les news à la télé aussi, et on rigole moins, donc autant enregistrer avec vous. Non, en tout cas, très très cool. Merci beaucoup.
Ça m'a rappelé à quel point Camille devrait faire des livres audio.
Oui, oui.
Alors, c'est vrai, on pourrait t'écouter parler pendant des heures.
Bah tiens, d'ailleurs, on peut faire un petit peu de pub. Il y a nos copains de Culture 2000 qui ont écrit un bouquin récemment, et un bouquin qui est illustré en plus, donc bien évidemment d'histoire et de vulgarisation, qui est illustré et très joliment illustré. Je me souviens plus des personnes qui sont sur l'illustration, mais très chouette. Et ils nous ont envoyé un exemplaire à la maison, mais vu que je ne suis pas à la maison, je ne peux pas le voir.
Je vous le mets à l'image.
Gentil. Et en tout cas, ouais, je trouve que ce genre d'initiative est très chouette, et j'espère qu'un jour on aura le livre, pardon maman. Donc voilà, je vivrai H24 chez Camille pendant 3 semaines, histoire de pomper tout ce qu'il y a dans son esprit et rentrer ça dans un bouquin, et zou.
Très bien.
Faire de l'argent sur le dos de Camille, donc très bien.
Bon, sur ce... sur ce, ça fait tellement de temps qu'on n'a pas enregistré que je peux bien dire sur ce.
Oui. Offre-toi un petit sur ce.
Oh, en sur ce.
Je propose qu'on enchaîne.
Très bien.
Que dites-vous de passer au sujet des backpackers, de ce cher Juanito.
Allons-y. Moi, j'ai pas de...
Jingle à la bouche, jingle à la
jingle à la bouche.
C'est exactement ce que j'allais dire, j'ai pas de générique.
De l'argent.
Je vais essayer de régler mon...
Tarmania a été repoussée, donc je fais une comédie
musicale. Mais arrête! Ça suffit.
Alors, donc, tu nous disais les backpackers.
Les backpackers. Alors, c'est un sujet discussion. Hein. J'attends de la discussion de votre part parce que moi, je vais être un peu à charge sur le sujet. Si jamais vous voulez prendre la défense de ces individus, c'est votre droit et nous pourrons discuter de pourquoi et du comment. D'accord ?
Ouais, oui, monsieur.
Bon, très bien.
Je vois mal répondre non parce que sinon l'épisode s'arrête.
Bah, je peux tout arrêter. Hein. At the press of a button. Alors, les backpackers. Bon, je vais vous faire la définition, bien que le nom parle de lui-même. Backpackers, donc, c'est un néologisme qui est formé à partir du verbe mendier, to beg en anglais, et d'un autre néologisme que vous connaissez, qui est les backpackers. Parce que backpackers, c'est pas un vrai mot, hein. c'est un néologisme.
Rien à voir avec les bégaiements, quoi.
Non, pas les backpackers, du tout. La plupart donc, des backpackers, c'est des jeunes touristes occidentaux dans 99,9% des cas, et qui voyagent particulièrement dans les pays du Sud en faisant des petits boulots pendant leur voyage et en évitant les endroits onéreux, les hôtels, etc.
Sud-Est d'Asie, non ?
Alors, Sud et Sud-Est, parce qu'il y a aussi l'Amérique du Sud, certains pays d'Afrique, mais c'est principalement, principalement l'Asie, tu as raison, c'est principalement l'Asie du Sud-Est. Et en fait on en connaît tous hein, des backpackers ou des gens qui ont voyagé en travaillant, c'est là-dessus rien à dire, notre problème n'est pas avec les backpackers mais avec les begpackers. Donc les backpackers ce sont ceux qui voyagent dans des pays où le coût de la vie est faible ou en tout cas bien plus faible que dans leur pays d'origine, mais qui n'ont pas trouvé de meilleure idée que d'y faire la manche. Donc ils s'assoient par terre dans la rue, parfois parmi d'autres mendiants, et ils demandent de l'argent pour continuer leur voyage. Pas pour manger, pas pour dormir, pas pour avoir un toit sur la tête, juste pour continuer le luxe qu'est de voyager.
C'est comme ils veulent pas se trouver un petit boulot comme les backpackers.
c'est bien le problème.
C'est là que le bas blesse.
Je vais pas vous montrer des images parce que on est quand même sur de l'audio principalement, mais vous pouvez taper backpackers sur Google, vous verrez très vite que on est sur des petits blancs qui ont pas l'air de manquer de sous hein, de manière générale. Donc voilà.
Tu parlais d'occidentaux tout à l'heure. Principalement pour des gens, on va dire plutôt CSP+, donc catégorie socio-professionnelle élevée. Bah, vraiment des gens qui ont de la thune. Ça peut être de partout, mais
surtout si papa et maman ont de la thune, hein, parce que généralement assez jeunes quand même dans l'ensemble.
Mais les photos me rendent fou.
Ouais, voilà. Donc c'est gênant. Bref, par souci de simplicité, donc on va inclure dans notre définition des backpackers ceux qui jouent de la musique dans la rue, qui vendent des babioles ou leurs photos de voyage à la sauvette, etc. C'est pas uniquement ceux qui tendent la main dans la rue en ne faisant rien, parce que il y a un débat autour des backpackers, et le premier argument qui arrive généralement dans ce débat, c'est « oui, mais s'ils jouent de la musique, c'est un service, s'ils vendent des babioles et machin ». On en parlera après, mais c'est problématique aussi, et c'est même problématique surtout. Donc backpackers, on va inclure en gros tout ça, quoi. Donc, le backpacking, c'est devenu une pratique répandue chez les backpackers, notamment en Asie du Sud-Est, comme tu disais, à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam, aussi en Corée, mais pas que en Asie. On a parlé de l'Amérique du Sud, mais typiquement, j'ai un exemple. En 2018, il y a une touriste allemande qui s'appelait Anna Karg, et qui, avec son ami Enoch Orius, ont visité la Nouvelle-Zélande en faisant les poubelles. Juste là, faites-vous plaisir, hein. Enfin, tu peux fouiller les poubelles si tu veux.
Chacun ses vacances.
Voilà, mais aussi en fréquentant les soupes populaires. Moins cool.
Ah.
Et c'est là que ça commence à coincer. Ça a particulièrement énervé Brian Dawson, qui est un conseiller municipal de Wellington, qui disait, je cite, « Je ne pense pas qu'il soit approprié d'utiliser les soupes populaires ou les services sociaux simplement parce que l'on veut pouvoir se déplacer à peu de frais. À l'inverse, qu'il soit volontaire pour servir dans les soupes populaires ne me poserait pas de problème. » Pour ma part, je suis assez aligné avec Brian Dawson, c'est-à-dire que si tu veux faire les poubelles, fais-toi plaisir, mais si tu as eu de quoi te payer un billet d'avion, t'es pas forcément obligé de venir taper dans la soupe populaire. Vous voyez le billet dont je parlais au niveau du débat. Je suis un peu à charge sur le sujet.
Bien évidemment, mais c'est vrai que... Bref, on débattra par la suite.
Tout à fait, c'est le but, hein, mais la raison de ce sujet, c'est que ça m'a un peu énervé à la base. La personne qui m'a donné le plus d'informations à ce sujet, c'est un journaliste indépendant qui s'appelle Raphaël Rachid, qui vit en Corée, qui a fait plusieurs threads Twitter, notamment, pour en parler. Et donc, d'après lui, on réalise rapidement que les backpackers fonctionnent en communauté. C'est pas vraiment un truc isolé. Ils se refilent les tuyaux soit par Internet, soit dans les auberges de jeunesse. On s'en est rendu compte de plusieurs manières, notamment en voyant que les pancartes qu'ils ont affichent toujours la même chose au mot près, ou au symbole près, puisqu'en fonction de la langue, des fois, ils vont carrément utiliser la langue locale, donc des symboles, et ils ont tous exactement le même truc. Donc c'est vraiment limite des mecs qui filent des flyers aux auberges de jeunesse, fait comme ça pour faire la manche, quoi. Donc pas terrible. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver chez nous, des personnes qui se donnent des tuyaux pour faire la manche, mais là, on parle de personnes qui ont un niveau de vie plus élevé à la base. Je précise que c'est de là que réside
le problème. C'est ça, là, c'est juste triste, en fait.
Exactement. C'est là que réside le problème, en tout cas. Il n'y a pas de problème à mendier. On peut en avoir besoin, mais il y a des cas de figure où c'est un peu malvenu. Et donc, ouais, ces pancartes affichent toujours la même chose. Et le problème, c'est aussi que certains trouvent ça plutôt cool et font des formations en ligne pour apprendre à faire pareil. Imagine non, que vous voyez très bien le compte Instagram de backpacker Youpi Tralala qui dit « Mais toi aussi, tu peux voyager pour pas d'argent. Regarde, tu peux faire la manche au Vietnam. »
C'est dur, ça.
Voilà.
Je suis en train d'imaginer, tu sais, la vidéo du mec qui dit avec sa voiture de location.
Eh ben, la question, elle est
Mais c'est... Enfin, voilà. Pourquoi c'est un problème? Après tout, bah, ils font bien ce qu'ils veulent. Bah, le problème, il est double. Il est à la fois moral... évident et légal. La partie morale, on va pas trop s'étendre dessus. Si t'as les moyens de payer un billet d'avion dans tes jeunes années, faut vraiment à mes yeux être la dernière des merdes pour aller t'asseoir à côté d'une personne âgée hongkongaise qui a perdu son appartement à cause de la spéculation immobilière, qui essaie de survivre, et toi tu viens de poser à côté pour vendre tes photos de merde et, et réclamer de la thune. Bon, gênant. Et les deux parties vont pas avoir la même utilité de ce dollar hongkongais. Quand des locaux dont le pouvoir d'achat est infiniment moindre vont voir un occidental faire la manche, le problème c'est que ils vont alors là je veux pas faire l'analyste, hein, c'est vraiment des propos que j'ai recueillis, ils doivent vraiment être dans la merde pour s'abaisser à faire la manche chez nous, donc je vais l'aider. Donc ça c'est des propos de locaux qui disent bon, un jeune occidental qui est venu en avion jusqu'ici, il a peut-être perdu son passeport, tout son argent, il a plus moyen de contacter ses proches, bah je vais l'aider. Or, c'est malheureusement souvent pas le cas.
C'est dingue parce que nous, on fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que nous, on voit un jeune étranger dans la rue qui fait la manche, on se dit « Et en plus, il vient nous piquer notre argent !»
On y reviendra sur la fin de ce sujet, justement.
Formidable.
Qui est encore
j'ai hâte.
Un autre problème. Donc ouais, le problème, c'est qu'ils donnent. C'est pas que ces gens-là fassent la manche. Le problème, c'est que les locaux, qui ont un niveau de vie beaucoup moins élevé, leur donnent. J'avais fait une parenthèse que j'avais écrit sur le fait que c'était pas subjectif, mais que c'était ce que je vous donne, c'est des mots des dirigeants locaux qui en ont plein les bottes et qui du coup commencent à prendre des mesures parce que dans la plupart des pays, la mendicité c'est illégal, mais dans un cadre plus global, de toute façon, il est interdit et illégal de profiter d'un visa de voyage pour se faire de la thune. Ça, c'est pour tout le monde et partout. Donc gros problème légal dans cette histoire. Même si tu joues du crin-crin ou si tu vends des babioles, c'est des activités qui sont, dans beaucoup de pays, comme par exemple à Singapour, extrêmement réglementées. Tu peux pas juste te foutre dans la rue et jouer de la guitare et récolter de la thune, quoi. Tu ne peux pas faire ça et tu peux passer beaucoup de temps en prison. Bon, comme t'es blanc, généralement tu passes moins de temps qu'un local, mais voilà, c'est problématique. Et c'est surtout en fait des pratiques que les locaux ne se permettent généralement pas. Tu avais quelque chose à dire?
Je pense que tu passes potentiellement pas beaucoup de temps en prison, quoique il y a eu quelques cas, mais les quelques jours que tu passes en prison quand t'es issu d'une jeunesse dorée X ou Y, je pense que ça doit te calmer très
vite.
Ah bah
tu vas pas retourner backpacker tout de suite. Mais en effet, je suis obligé de généraliser. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'à aucun moment je juge ces personnes cas par cas. Tu vois des photos sur internet de gens qui backpack. Dans le tas, il y en a forcément un qui a vraiment eu un souci, qui a perdu son téléphone, ses papiers, son machin, qui a jamais entendu parler de ce que c'est qu'un ambassade et qui pourrait facilement retrouver un passeport. Et du coup, il se dit, je vais aller faire
la manche. On parle pas du fait de demander de la thune parce que t'as un besoin, mais d'utiliser ça comme une source de revenus pour ton voyage.
De dire, plutôt que dépenser mon argent à moi, je vais aller prendre l'argent des locaux pour me payer le luxe de voyager, en gros. Donc je vous disais, les élus commencent à prendre des mesures, les choses commencent à bouger un peu. En fait, à la base, le phénomène des backpackers, on n'en parlait qu'en Occident. C'était des articles de blog, des gens qui faisaient du voyage et qui disaient « Tiens, c'est bizarre, je vois pas mal de gens qui font la manche, etc. » Enfin, des blancs qui font la manche à l'étranger. Puis il y a eu 2-3 journaux en ligne et ça commence à devenir un vrai sujet à l'étranger, et les locaux commencent à être éduqués à la pratique, et donc se montrent moins conciliants. Les participants, il y en a même qui commencent à être un peu plus virulents avec les personnes qui pratiquent ça. Et les élus donc prennent des mesures. Par exemple, on a Bali. Le bureau de renseignement et d'application des lois en matière d'immigration, fallait que je relise l'acronyme, à Bali. Communiqué, donc, nous avons récemment rencontré de nombreux touristes problématiques, issus principalement d'Australie, d'Angleterre et de Russie. Alors c'est apparemment, c'est revenu plusieurs fois, ce sont les trois nationalités principales de l'activité, l'Australie, l'Angleterre et la Russie.
Pour une fois que c'est pas les Arabes.
Ou les Français, parce que les Français à l'étranger, on se fait toujours bâcher.
Yes. Et la petite glissade. Carpe chassé qui fait un grand.
J'ai adoré que t'as ouvert ton micro juste pour dire, pour une fois que c'est pas les Arabes.
Rappel pour ceux qui n'ont
que l'audio.
L'audio, c'est Hicham qui a dit ça. Voilà.
Pas penser, mais... Donc oui, principalement d'Australie, d'Angleterre et de Russie. Et donc nous signalons ces cas aux ambassades concernées pour qu'elles gardent un œil sur ces touristes qui sont ici en vacances. Alors ça veut à la fois tout et rien dire. On a identifié qui c'est, on leur a dit de faire gaffe. Pas vraiment de mesures mises en place pour l'instant. En tout cas pour ce qui est de Bali. En Thaïlande, il y a une vraie mesure pour le coup qui a été mise en place. Les visiteurs doivent pouvoir prouver qu'ils ont au moins 20 000 bahts, ce qui fait environ 500 euros, en cash sur eux, avant d'être autorisés à rentrer dans le pays. Donc soit avoir 20 000 bahts, et présenter également un billet de retour, je crois. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Mais
Ah, mais c'est pour ça, du coup, qu'il y a des pays dans lesquels tu rentres où tu dois justifier d'une certaine somme. Enfin, c'est lié que à ça ?
Uniquement pour ça, mais c'est les pays où il y a de la vue, puisque notamment, tu vas voir le Japon... qui fait ça, si je dis pas de bêtises, parce que bah, y a
que
des gens qui se disent coucou, je vais au Japon et je vais m'installer là.
L'Australie aussi,
ouais. Okay. C'est vrai.
Ouais, je crois que l'Australie, j'avais dû justifier de mes thunes.
Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient je vais aller là-bas refaire ma vie avec 500 euros. Bah non, frérot, c'est pas comme ça que ça marche en fait.
Je peux me permettre ça, c'est un truc qui est aussi assez général et pas que dans les questions d'immigration. Donc c'est le cas dans beaucoup de trucs, même les USA, etc. Et je me demande, c'est pas le cas aussi avec la France. Et notamment, il fut un temps, c'est peut-être toujours le cas, mais avec des vieilles lois qui sont plus appliquées. Mais pendant un temps, il fallait toujours avoir une certaine somme sur soi, qui était la somme nécessaire pour prendre un ticket de bus, par exemple, pour rentrer chez soi, un truc comme ça.
Mais tu sais que c'est toujours en application, ça, normalement. C'est plus appliqué par la police, mais c'est toujours dans la loi.
Oui, mais parce que pardon, du coup, on digresse, mais parce que on peut pas annuler une loi comme ça. En fait, il faut décréter une nouvelle loi qui va annuler l'ancienne loi. Donc, il y a plein de toujours actives, mais plus appliquées. Mais ouais, le fait d'avoir un minimum d'argent, c'est le cas dans plein de pays, pour justement que tu te dises, surtout dans les pays où les instances sociales et publiques sont moins développées parce que les instances publiques n'ont pas vocation à sauver tout le monde. Donc par exemple en France, si tu te paumes, si t'as fait du ski et que tu te paumes au fin fond de nulle part, bon bah t'as toujours un hélico qui va venir te chercher et on te fera la leçon après, mais t'auras quand même un hélico.
C'est pas le cas.
Voilà, grosse digression.
Oui, en parlant de digression, un jour on pourra faire un sujet sur les lois stupides qui existent encore. Mais Uba Butler avait fait une vidéo, le mec de Vice, avait fait une vidéo sur les lois anglaises qui sont les plus rigolotes à ce niveau. Mais je me demande si on l'a même pas déjà fait un jour. Mais je regarderai. C'est possible. Après des années de pardon maman, on oublie. Donc où en étais-je ? Oui, donc
sur le fait qu'il fallait justifier.
Tout à fait, ouais, sur les 20 000 bahts donc en Thaïlande et le fait de pouvoir justifier d'un billet de retour. Après, on va pas trop rentrer là-dedans, mais ça ouvre encore une porte sur ce délire de privilège occidental. Enfin, ce délire, non, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que, on t'en parlait tout à l'heure, Camille, en Europe, on n'a pas de backpackers. On a ce qu'on appelle des réfugiés. Comme on n'a pas d'expats, on a ce qu'on appelle des immigrés. Donc on n'a pas romanticisé tout ça chez nous. C'est vraiment que dans un sens. Et chez nous, on a des débats sur pourquoi les immigrants doivent contribuer à l'économie et ne pas toucher aux allocations, etc. etc. Donc c'est ça aussi le gros problème, c'est que c'est un peu à sens unique, quoi.
Mais c'est, il me semble que c'était un mec qui s'appelle... Attends, c'est Marx, mais c'est pas le Marx auquel vous pensez. C'est un humoriste qui s'appelle...
Sébastien Marx.
C'est pas le même.
Ouais, voilà. Exactement. Mais qui est au Barbès Comedy Club d'ailleurs, donc un copain de ce cher Yacine Bellous qui était avec nous sur un épisode. Je crois qu'il avait une blague qui disait genre la différence entre un expatrié et un immigré, c'est que quand tu dis d'où tu viens, on te demande qu'est-ce que tu fais là. Il disait quand tu viens de New York, on te demande qu'est-ce que tu fais là, donc t'es expatrié, et quand tu dis que tu viens du Maroc ou de machin, on ne pose pas la question et c'est voilà une petite blague lunette sur.
C'est pas une réflexion.
C'est pas faux parce que même moi, quand je dis que je viens d'Arabie Saoudite ou quand je dis que je viens d'Algérie, j'ai pas les mêmes réactions.
Ah ouais.
Enfin bref, du coup, on parle pas, comme je vous disais, d'individus, on parle d'un mouvement qui a pris un peu trop d'ampleur. Une tuée à l'étranger, ça peut arriver tout le monde, mais quand on voyage dans des pays où la population que l'on croise est loin d'avoir les mêmes moyens, bah, il ne faut pas oublier que voyager, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir, et que c'est une pratique qui est, à mes yeux, plutôt déplorable. C'est pour ça que je voulais en parler, si vous n'en aviez pas entendu parler, et il faut aller faire vos propres recherches là-dessus. Ça a pris malheureusement beaucoup d'ampleur, et ça commence à peine à être contrecarré. Et ça, enfin, la culture du backpacking, qui en soi est quelque chose de super, parce que ça forme la jeunesse, hein, ça on l'a pas inventé, le backpacking c'est une super expérience, bah, ça peut être gâché par ce genre de commercialisation un peu merdique de la pratique, et c'est dommage, voilà. Et c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
Mais grâce à toi, je sais comment faire des économies pour mon prochain retrait.
Ouais, pour aller vendre des cartes postales.
Voilà, si tu as les bons spots en Thaïlande ou en Nouvelle-Zélande, je suis tout à fait preneuse.
Alors, je serais quand même assez curieux, je t'avoue que j'ai pas poussé mes recherches jusque-là, mais de trouver ces fameux forums et ces fameux groupes WhatsApp, etc., où ça se partage
dingue.
Des tips pour aller mendier dans des pays moins développés que le sien,
mais
économiquement, c'est quand même...
Il faudrait s'infiltrer dans ces groupes-là, quoi. Je suis sûre que les conversations sont totalement lunaires, en fait, ouais.
Probablement, mais la flemme, hein.
Oui, oui, oui. On a mieux à faire, on a une vie à vivre.
Je ferai à l'occasion un sujet de Juan sur le business des formations, justement, formations sur tout et n'importe quoi. Genre, ah, regardez comment devenir riche, comment faire 3000 euros par mois en restant assis sur votre canapé, des trucs comme ça. Effectivement, la plupart du temps, les gens qui te disent ça, ils font pas 3000 euros par mois sur le canapé. En fait, il y a un énorme commerce de la formation. Pas comme on l'entend, parce que la formation c'est très chouette, mais ce genre de formation un peu arnaque, genre hey, je vais vous donner mes secrets, genre bah écoute frangin, si t'as besoin de faire des formations sur ça, c'est peut-être parce que t'arrives pas à l'appliquer. Effectivement, il y a tout un délire là-dessus, et effectivement, ça va être assez ouf.
Elodie s'étant mis doucement à l'immobilier, ouais, il a fallu faire un tri.
Ouais, j'imagine.
En revanche, l'immobilier est un cas particulier, puisqu'il y a un certain moment où, en tant que particulier, tu ne peux pas investir plus une fois que tu dépasses un certain taux d'endettement de 33%. Et à partir de là, bah, si t'as bien aimé le fait de faire ça, mais que tu peux plus le faire parce que t'as dépassé ce taux, bah, ça peut se comprendre que des gens aient envie de partager ce qu'ils ont découvert et faire des formations, etc. Et il faut arriver à faire le tri entre ces personnes et les autres, dont tu nous parleras peut-être une fois du coup.
Bah, avec plaisir, mais en tout cas, ouais, trop intéressant. Et puis en fait, bah, comme tu dis, ça ouvre à débat. Déjà, oui, trop cool, merci et tout. Mais ouais, ça ouvre à débat de ouf, parce que le fait de vouloir voyager à, entre guillemets, peu de frais, bah, c'est super intéressant. Parce que bon, d'un côté, on sait que ce type de tourisme n'est pas forcément très positif pour les endroits où on va. Enfin, c'est très difficile d'avoir un tourisme qui va être très positif pour toutes les strates de population dans les endroits dans lesquels on se rend. Mais ça, c'est un problème qui est plus gros. Et après, oui, il y a ces abus qui sont assez dramatiques. Et puis, bien évidemment, en tout cas personnellement, on ne critique pas les personnes qui vont justement faire ce type de voyage de backpacking, de voyager à peu de frais.
Ah non, loin de là, c'est surtout pas l'idée.
C'est pas du tout la question. Et la question, c'est plus de est-ce que, en tant que CSP+, dans ton pays, tu vas te permettre CSP+, d'un pays où tu as une vie aisée, tu vas te permettre de te mettre au niveau des personnes qui sont dans la vraie galère et dans des vraies problématiques de survie. Et ça, c'est très difficile de dire oh, mais oui, c'est une trop bonne idée. Enfin, en tout cas, personnellement, mon cœur dit.
Pour moi, être la dernière des merdes, je me permets de traduire.
Voilà. Et depuis le début, je voulais parler. Discuter de gens qui choisissent depuis, on pourrait faire une émission, on appellera ça des oui et des bains. Oh, mais ça existe déjà, ça.
Oui, mais c'est quand même drôle.
Déjà. C'est vrai. Mais non, depuis le début, je voulais parler d'une émission que perso j'ai adorée, qui certainement a plein, enfin on peut y trouver plein de critiques, mais j'avais kiffé
Minicum.
Les Minicum, c'était cool aussi. Et il m'a fallu 10 ans pour comprendre que les Minicum, c'était fait par les guignols de l'info, mais c'est parce que je suis très lent. Voilà. Mais non, alors Nu et Culotté, le principe, c'est que c'est deux mecs, globalement des anciens Boy Scouts, parce que tu sens qu'ils ont plein de tips là-dessus, etc. Et leur délire, c'est de se dire, voilà, on veut voir comment on peut voyager sans argent, mais sans absolument aucun argent. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais même... En fait, ils partent d'un endroit, littéralement, nus, donc ils sont nus et avec un couteau. Pour
mais c'est McFly et Carlito.
Non, pas du tout. Alors, je vous conseille vraiment de regarder. Il y a plein d'épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Pas de McFly et Carlito, mais de Nu et Culotté. Donc, ils partent d'un endroit, ils disent voilà, on a un rêve et on veut voir si on peut y aller. Donc, un épisode, un rêve. Et par exemple, un des rêves, ça va être bah, tiens, on veut aller construire un château de sable dans le désert du Maroc, où on veut voir un vieux château hanté en Irlande ou en Écosse. Et donc, ils partent d'un endroit. Le but, c'est d'arriver à un autre endroit avec, bah, en partant avec zéro pognon et à poil. Donc, au début, bah, faut trouver de quoi s'habiller. Bah ouais, de quoi s'habiller. Heureusement, quand tu vois les mecs, tu dis mais tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Vraiment, ils inspirent une confiance et une bonté qui est incroyable. Et ils arrivent en guenilles devant des inconnus au premier village qu'ils trouvent. Et t'as des gens qui leur ouvrent leur maison. Ils leur disent vraiment, on est désolé, on n'a pas d'argent. On veut juste est-ce qu'on peut se doucher si ça vous embête pas. On fera des travaux chez vous si vous voulez pour vous aider et tout. Et c'est un show qui est très très feel good parce qu'ils vivent des histoires assez ouf. Et les deux sont très très sensibles et souvent très émus. Et il y a des trucs vraiment très ouf qui se passent et voilà, et ils refusent systématiquement qu'on leur donne de l'argent. Ils ont de quoi
c'est ça la différence en fait.
Ouais. Eux, on leur a déjà proposé, ils ont dit non désolé, notre règle c'est de pas accepter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de travailler pour vous. S'il y a vraiment un truc où ils sont obligés de payer, je sais pas, un jour ils voulaient prendre un ferry et il y avait aucun autre moyen, et ben ils se sont débrouillés pour se faire de la thune. Mais ouais, non, ils ont fait des trucs plutôt ouf. Ils ont fait du stop, du bateau stop, de l'avion stop.
Attends. Quand tu passes d'un avion à l'autre. Bateau stop.
Hein. De l'avion stop.
Ouais, c'est encore pire que le bateau stop, l'avion stop.
Ouais, j'avoue. Ouais,
donc, le pire, c'est quand même le death stop. Bah... Mais...
Oh non. Non, mais vraiment, regardez, je vous conseille. C'est super intéressant, c'est très touchant, c'est très feel good. Et en fait, ils vont soit en France, soit dans différents pays. Et vu qu'ils sont ils apportent beaucoup d'importance aux relations sociales, aux machins et tout. Du coup, ils discutent beaucoup avec les gens qu'ils croisent. Et je pense que je vais me refaire un épisode d'ailleurs parce que c'est super agréable à regarder. Voilà. Donc, ça s'appelle Nu et Culotté.
Très bien.
Et c'est très légalement disponible sur YouTube parce qu'il me semble que ça a été uploadé par la chaîne. Donc je vous encourage à regarder ça et ça montre une autre façon de voyager et ouais, ils ont fait des trucs qui sont assez ouf quoi.
Ah, je suis un coup.
Très bien.
J'ai passé une semaine à retaper une maison de famille pour que un des membres de la famille leur répare une vieille mobylette et du coup ils font genre 400 bornes à mobylette, enfin un gros délire et ouais non, c'est très chouette.
Nice. Très bien.
Et bah trop cool, et en tout cas ouais, si vous voyagez, faites ce que vous pouvez avec vos moyens, mais ne mendiez pas comme les gens du pays dans lequel vous allez, parce que bah, les pauvres, ils ont besoin de cette thune aussi. Donc, et si vous avez envie de jouer, après non je vais pas donner de leçon non plus, mais si vous avez envie de jouer de la guitare dans la rue dans n'importe quel pays, si vous avez besoin de la thune, bon bah allez-y, on peut tous avoir des moments difficiles, mais si vous n'en avez pas besoin, et bah, vous pouvez aussi refiler cette thune à la fin de la journée, à des personnes qui en ont besoin, et comme ça vous serez fait plaisir, vous aurez touché 2-3 piécettes sonnantes et trébuchantes et vous les aurez refilées à une personne qui en a besoin. Voilà, ce sera la fin de ma
diatribe
de mon côté moralisateur que je déplore, mais
je vais rien dire parce que mon sujet était de la moralisation de A à Z, donc
non, c'était du sel, mais j'étais plutôt d'accord avec
ça. Non, mais et puis c'était trop bien, moi je connaissais pas du tout, moi, ce fut une belle découverte.
Eh ben, c'est parfait. Sur ces belles paroles, les amis.
Ben oui, il me semble qu'on va arriver à la fin de l'épisode. Merci
absolument
aux auditeurs, auditrices, aux visionneurs, visionneuses, je sais pas comment on appelle ça.
C'est vrai qu'on vous a jamais donné de nom. Les amis. Merci, les amis.
Ben voilà. Et en plus, ami, c'est épicène comme mot. Et on expliquera épicène après. C'est un mot qui peut être utilisé masculin et au féminin. Donc, c'est épicène.
Ça passe.
Comment?
Non, enfin, c'est l'épicéa, ça.
Avec l'épicéa. Ben
oui. Ah oui, c'est l'épicéa.
Blague d'arbre.
Yes. Ouais, j'avais un truc avec arbre, mais je vais vraiment pas la tenter, donc... Ouais, donc merci beaucoup, c'était un gros plaisir. Je pense que... Bah, en tout cas, personnellement, c'est un très beau plaisir de vous retrouver aussi, cher compère, cher con-mère.
Putain, non, c'était pas vu depuis 10 heures.
Non, mais c'était très cool et je pense qu'on va essayer de revenir à des sujets régulièrement.
Ouais. Ah, Lionel puis, nous dit que c'était trop court. Bon, déjà comme ma bite, et ensuite on essaiera de faire plus long à l'avenir. Voilà, comme moi.
Oui, voilà. Bah, on essaiera de faire plus long ou en tout cas plus régulier. Ouais, ça serait cool. Parce qu'après, ouais, les deux heures avec la Lordi qui est en train de transformer mes cuisses en, bah, en cuisses beaucoup trop mouillées. Vous voyez que je n'ai plus de répartie à cette heure-ci. Mais voilà, en tout cas, plus régulier. Et puis, je pense qu'on aime tous le petit format vidéo qu'on a, parce qu'en plus, on peut interagir avec les gens et c'est rigolo. Et ça ne nous empêche pas de faire des épisodes audio par la suite.
Il faudra juste qu'on sache si, en termes d'audio, c'est à l'auteur. Ça ne faudra pas hésiter à nous faire le retour si vous pensez que c'est vraiment.
Faites-nous les retours.
C'est pas assez bien au niveau de l'audio. On va essayer de trouver des solutions. Il faudra qu'on fasse des choix, quoi, finalement.
C'est ça.
En tout cas, je sais pas pour les auditeurs auditrices, mais perso, je trouve que c'était beaucoup mieux que nos précédentes fois. Donc, on s'améliore, on s'améliore. Faut pas oublier qu'on n'est pas devenu, pardon maman, en un jour. Donc,
on ne pouvait que s'améliorer.
Voilà. On fait notre petit chemin tranquille. C'est top, quand ma box me sabote pas. Désolé Pyrotechnics, mais la vidéo. Alors dès qu'on aura fini l'enregistrement, la vidéo sera disponible sur Twitch et après on mettra ça sur le flux de podcast. Bah, d'ici soit quelques jours, soit la semaine prochaine. On va essayer de garder les mardis. On verra. Mais donc voilà, chaud. Merci Vincent, des gros bisous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va essayer de passer. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin les uns les unes des autres. Abonnez-vous sur Twitch. Envoyez-nous des messages. J'ai pété ma queue de traitement. Ah, désolé.
Merde. Sale histoire.
Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Bien, mais j'imagine que c'est pas. Ouais, j'imagine. Et puis le fait galère, j'imagine que ça n'évoque pas quelque chose de positif. Bah, mais bah, désolé, j'espère que ce n'est pas trop grave. Et donc, conclusion, on vous aime très fort, on va essayer de revenir plus régulièrement, et puis bah, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres, et puis ciao à la prochaine.
À très vite,
bisous.